C'est un thème général ce matin, les procès qui s'étirent.
Ben, écoute, c'est ça. Là, ce matin, ça sautait aux yeux parce que la première page de la presse, il y avait le juge en chef qui disait « Les riches sont en train de monopoliser à coups de requêtes et grâce à leur fortune personnelle, ils peuvent se payer des avocats, ils multiplient les requêtes et toutes sortes de mesures qui font qu'ils encombrent. » Puis le chiffre est quand même surprenant, là. Et je lisais que 50 % du temps des procès, c'est lié à des causes familiales. C'est sûr que s'il y a quelques procès, comme on en a vu, de gens très riches qui se disputent pour des fortunes et qui multiplient les requêtes, tu es en train de gober le temps nécessaire, donc de juge. Et tu, par définition, tu retardes tout le reste. Ça, jumelé à au procès Normando, qui est une vraie farce, parce que finalement, c'est comme tu disais ce matin, c'est le procès de l'UPAC. Là encore, ça apparaît clairement, là.
C'est pire que le procès de l'UPAC, c'est en train de virer au vaudeville, cette affaire-là. Parce que, tu sais, je sais pas, là, mettons, M. Lino Zambito cette semaine, là, qui... mais tu sais, il n'y a pas de preuve. On lui fait parler de choses, mais tu sais, il n'y a pas de preuve. Moi, parce que j'ai toujours vu le tribunal, je ne suis pas avocat, puis je me suis jamais vraiment intéressé à ça, mais d'habitude, ce qu'on dit au tribunal, c'est des dossiers, des documents, des faits, des choses. Ou encore, t'as assisté, toi, à un accident, là, tu l'as vu, donc tu racontes ce que tu as vu. Si le troisième voisin t'a dit, bon, mais moi, j'ai entendu parler que cet accident-là, ça, en cours, il me semble qu'on dit d'habitude.
Ben, c'est parce que tu te ramasses dans une situation où tu déposes une requête, la défense, là.
Exact.
Pour dire qu'il y a eu des fuites, puis que les fuites vont faire en sorte que t'as pas droit à un procès qui va être correct.
Non, la mesure est bien claire, c'est ça qu'on veut faire.
C'est correct, je comprends ça. Puis là, tu veux démontrer qu'il y a eu des fuites. OK? Mais quelqu'un qui témoigne. Lino Zambito a été témoin vedette à la commission Charbonneau. Il a témoigné de ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, des choses qu'il a faites. Là, quand même, qu'il nous dit que Denis Galland était sur la shortlist, OK.
Ça peut être vrai, là. Ça, en fait, c'est peut-être vrai, là.
Peut-être. Puis que c'était le favori de Martin Coiteux. Ça se peut, mais ça change quoi? Puis là, c'est de nous dire que Robert Lafrenière est donc quoi? Celui qui est l'auteur des fuites.
Non, puis l'autre policier qui vient nous dire le climat de travail est pourri. Mais ça aussi, c'est une évaluation subjective. Puis c'est que ça vient faire.
Puis étayer le principe que...
Mais ça crée des fuites. Puis là, tu demandes à trois personnes, tu veux la fuite?
Non.
Non. Non.
Fait que là, tu dis, OK, c'est quoi next? Puis aujourd'hui, c'est deux journalistes, dont Louis Lacroix.
Ils vont leur faire entendre des voix pour dire, reconnais-tu la voix?
Le Pierre qui t'a appelé, là, c'est-tu lui? Penses-tu qu'un, il va répondre? La réponse, c'est non. Ni oui, ni non. Fait que je sais pas ce qu'on fait avec ça, là. Alors que la question de base, c'est est-ce que les accusés sont coupables ou non coupables?
Oui, mais là, parce que les accusés veulent que le procès... Oui. Ils ont essayé de faire sauter le procès, là.
Exact, la mesure dilatoire. Oui. Donc, c'est leur moyen leur permettre de faire déposer par leurs avocats un tas de requêtes et de faire dérailler, en quelque sorte, l'objet même du procès. Et ça, c'est assez grave, parce que je trouve qu'il y a un jeu avec la justice là, qui est en train de se passer. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il y a eu de la culpabilité, là, criminelle, donc de la part de Marc-Yvan Côté puis Mme Normando. C'est ça, là, le vrai procès. Et là, toutes ces mesures-là font qu'éventuellement, le procès pourrait ne pas avoir lieu. Je trouve qu'il y a un déni de justice dans cette procédure. Dur, là. Puis je lisais plus loin, puis il disait que les juges sont de moins en moins patients avec toutes ces tentatives de dénier la justice. Ça a l'air que la réforme du code criminel,
le code des procédures, je pense.
Le code des procédures, ouais, a été modifié, telle sorte qu'on est moins tolérant.
Celui qui est à Québec actuellement est assez patient.
Je trouve qu'ils sont très patients, moi encore. Puis quand on a vu aussi tous les délais, puis tous les procès qui ont été avortés à cause de l'arrêt de Jordan, là, on se dit, il y a vraiment un problème systématique. Là. Il y a un problème...
Problème, c'est celui des délais. En fait, le problème, à mon avis, c'est pas l'arrêt Jordan. L'arrêt Jordan, c'est la Cour suprême qui considère qu'il est tellement crucial dans la justice au Canada d'arrêter d'étirer les délais que la Cour suprême se dit, ben, même si quelques procès, là, malheureusement, devaient tomber là, cette année, là, je sors le fouet, puis... Je mets fin à la pratique des procès qui arrivent jamais puis qui prennent 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu la Cour suprême. Ils sont pas innocents, la Cour suprême. Ils savaient qu'il y avait quelques procès qui allaient tomber. C'était comme le malheureux prix à payer, quelques procès qui allaient tomber pour changer la justice pour des décennies à venir au Canada.
Mais tu prends le cas, là, cette semaine, c'est un bel exemple. Jean Odette, là, qui était DG adjoint de la Sûreté du Québec.
Ça, ça remonte à quelle année, là?
5 ans.
5 ans.
Ouais. 5 ans, là, au moment où il est accusé, là, puis là, après ça, tu as toutes les étapes, puis c'est in and out là, comme procès, là, ça a duré, je pense, 2 ans. Là, après 5 ans, tu te fais dire que tu n'es pas coupable, puis le juge te dit là, que tu as travaillé dans les intérêts de la Sûreté du Québec.
Imagine.
C'est quoi, tu penses, l'impact de sur...
Mais c'est quoi le coût? Pour... Nous, là, les contribuables, ça nous coûte combien, là, ce procès-là? Ouais. Probablement que le gars a été payé, était avec sol d'un grand bout dans ça, a pas travaillé.
Puis moralement, puis ta réputation, puis tout ça, là, puis pas pendant 2 ans, pendant 5 ans.
Le coût humain était incroyable. Et puis la perte pour la société, parce qu'il y avait quelqu'un là qui visiblement faisait justifiait amplement ce qu'on lui payait, qui vient d'être mis sur la touche pendant 5 ans, injustement. C'est épouvantable. C'est ça, moi, je trouve. Puis... Et c'est clair que l'arme de tout ça, c'est les moyens. Bon, enfin, je dis ça, les moyens financiers. Le juge en chef, Roland, dit, lui, qu'il n'y a pas de lien entre la fortune des accusés, des gens qui font des procédures, et puis le nombre de procédures. Il dit que ça peut arriver chez des gens qui ont peu de moyens.
Ouais. Mais quand tu as les moyens de payer des avocats puis de multiplier des requêtes, là,
me semble.
Je pourrais te nommer 2-3 causes avec du monde assez plein. Là.
Ben oui, c'est ça.
T'sais, ben oui.
Ben moi, je pense qu'il y a un lien direct. En tout cas, je trouve que c'est en tout cas de ce temps-ci, c'est ça qu'on voit. On voit que l'argent permet, en quelque sorte, d'entraver le processus judiciaire. Puis c'est assez grave dans une société parce que ça donne à tout le monde l'impression que ça s'achète. En quelque sorte, ton innocence peut s'acheter, même dans une justice qui, par ailleurs, règle correctement les choses. Tu peux acheter de l'innocence. C'est effrayant.
Ben non, mais
tu
peux acheter des délais.
Si tu arrives
tu peux acheter des délais, tu peux améliorer tes... Je pense qu'on a quand même un système de justice correct. Dans le sens
aussi,
que si t'as commis un crime grave puis que c'est clair que tu l'as commis, tu vas finir par être condamné. On a des preuves de ça aussi. Mais c'est sûr que si tu as des moyens financiers, tu vas pouvoir jouer sur les délais, améliorer tes chances que s'il y a quelque chose de flou...
Améliorer ta défense, on va se le dire.
Que si la couronne a fait une petite erreur, là, je veux dire, si t'as pas une scène, t'es défendu par l'aide juridique, là, ça risque de passer que la petite erreur de la couronne, on l'oublie. Mais si t'as le meilleur criminaliste en ville puis t'es prêt à le payer autant d'heures qu'il faut, ben là, ça se peut que si la couronne a fait une petite erreur...
Le préjugé que la justice a plusieurs vitesses et que ces vitesses-là sont liées souvent à tes revenus. Et ça, c'est épouvantable parce que je ne crois pas que ce soit la vérité de la part du système judiciaire au Québec. Je pense que c'est un système judiciaire auquel on peut avoir confiance. Malgré la confiance qu'on peut avoir, il n'empêche quand même qu'il peut y avoir une justice à deux vitesses. C'est ça que le juge en chef dit. Et ça, moi, je trouve ça inquiétant, démocratiquement.
Mmh. En tout cas, disons que ceux qui ont les moyens peuvent louer les salles pendant longtemps. Mais il y a quand même... un exemple ici de jurisprudence qui a été établi, un homme qui a poursuivi Denis Lévesque et son producteur parce qu'il n'a pas été invité à l'émission.
Ah oui?
Oui. Il a écrit
alors qu'il avait des choses à dire.
Absolument. Il avait écrit un livre et il a poursuivi, c'est pas une blague, et le jugement a été rendu et le gars a été débouté dans sa requête, faisant comprendre qu'il ne peut pas inviter tout le monde à son émission.
Ah.
Je suis content parce que moi aussi, j'invite du monde. Alors, tu sais, s'il y a des gens...
Vous êtes en feu, certains?
Certains, là, j'ai eu peur d'être poursuivi en voyant ce jugement-là. Mais non, le juge a vu clair et a reconnu que le producteur et TVA n'avaient pas de responsabilité, ne peuvent pas recevoir tout le monde.
Mais est-ce qu'il pourrait obtenir un jugement à l'inverse? C'est quand toi, tu invites des hauts fonctionnaires ou des gens qui auraient des choses à te répondre puis qui n'acceptent pas ton invitation, tu pourrais les poursuivre, toi?
J'aimerais savoir le droit de faire des mises en demeure, mais ce n'est pas le cas.
Okay.
Il est 8h41. On va parler de la réforme annoncée hier pour le congé parental, le tunnel La Fontaine.